Méditation sur la foi à l'occasion de ce baptême. Et on va lire cette fois en Matthieu 16, versets 13 à 20, un texte qu'on n'a pas lu récemment. Et c'est Jésus donc qui demande « Qui dites-vous que je suis ?» Ils vont répondre. Et on va essayer de méditer ce texte dans son entier, donc les versets 13 à 20 de Matthieu 16, qui est sur votre écran. En principe, ah, peut-être pas, non. Alors, je vais vous le lire. Les enfants rejoignent leur groupe d'école du dimanche. Voilà. Ils ont été beaucoup impressionnés, je crois, par ce baptême. Pourquoi pas nous ? Voilà ce qu'ils ont entendu. C'est une bonne question qu'on peut tous se poser. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, mais pour les gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils lui répondent, les uns disent Jean-Baptiste. Ou Élie, Jérémie, ou un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites, vous ? Qui suis-je pour vous ? Et Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père directement dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne prévaudra pas contre elle, ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux, et ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples, ne dites à personne pour l'instant que je suis le Messie. Seigneur, éclaire pour nous ton saint livre. Applique à nos cœurs ta sainte parole. Amen. Donc ce texte de l'Évangile est parfait, je crois, pour un culte de baptême. En effet, un baptême de croyant, c'est le moment où on professe sa foi personnelle. C'est le moment où on dit « Qui est Jésus-Christ ?» et où on proclame publiquement le reconnaître comme le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors au cœur de notre passage, il y a donc cette confession de la foi de Pierre. On peut souligner, tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est vraiment le centre du passage. Mais cette confession de foi ne vient pas comme ça, spontanément, hein. Elle est amenée par Jésus dans son dialogue avec ses disciples. Et tout commence donc avec cette question. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ? Le Fils de l'homme, c'est un des titres que Jésus s'est donné, hein, et tiré de l'Ancien Testament. Alors, un sondage, c'est un sondage en quelque sorte. Jésus fait un sondage. On a eu des sondages pour les élections, enfin pas depuis deux jours, mais les sondages, on connaît. C'est un sondage, c'est une enquête d'opinion. Il n'y avait pas d'institut de sondage à l'époque, encore moins Internet, mais les gens parlaient, hein, les gens ont toujours parlé. Et Jésus, donc, intriguait les foules, et forcément, les disciples entendaient ce qui se disait, hein, sur les marchés, partout. Et on venait même probablement leur parler pour leur poser des questions sur celui dont ils étaient les disciples, sur Jésus. Et les réponses sont variées. Alors, vous avez noté, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, hein, ou l'un des autres prophètes, c'est pas mal, hein. Il rattache Jésus à des gens qu'ils connaissent et pas des moindres. Ce sont des grands noms de l'Ancien Testament qui sont cités, les plus grands prophètes de l'histoire biblique. Donc ça veut dire que les foules prenaient Jésus pour un grand homme, un homme de Dieu remarquable. Et Jésus savait tout ça, il n'avait pas besoin qu'on les enseigne, il savait tout, il n'avait pas besoin d'une enquête d'opinion. Mais et donc il ne l'a pas fait auprès de ses disciples, il l'a fait que pour pouvoir leur poser la question qu'il voulait leur poser. Mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Alors ce n'est pas l'opinion des gens à son sujet qui a intéressé Jésus, mais c'est le positionnement des disciples, de chaque disciple. Et donc comme j'ai marqué, le premier point qu'on peut souligner, c'est que la foi n'est pas une question d'opinion. C'est une conviction intime et personnelle. Il ne s'agit pas seulement de cocher dans un sondage la bonne case. Croyez-vous en Dieu ? Oui, non, ne se prononce pas. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus d'apprendre par cœur un catéchisme, même le plus biblique, ou de se cacher derrière une éducation reçue. Dans ma famille, on a toujours cru. Non. Alors, bien sûr, notre éducation compte, on sait bien, dans notre éducation spirituelle. Et si on a été éduqué dans l'enfance, dans les écrits sacrés, eh bien, c'est une grâce. Mais la foi reste quand même une affaire personnelle, une affaire intime. On ne peut pas vivre sur la foi de ses parents ou de ses grands-parents. Un cheminement spirituel demande forcément un jour ou l'autre l'affirmation d'une conviction personnelle. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Et le baptême, donc, c'est l'occasion d'exprimer cette conviction. Mais là aussi, il ne s'agit pas simplement de cocher la bonne case le jour de son baptême. Il s'agit de nourrir et d'affermir notre conviction. Et donc, c'est une question qu'on peut poser à chacun. Comment nourrissons-nous notre foi ? Comment affermissons-nous nos convictions ? Et on peut proposer un petit test. Oh, rassurez-vous, ça sera dans l'intime de votre cœur. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qui a changé dans nos convictions profondes ces derniers mois, voire ces dernières années ? Comment notre foi a-t-elle évolué ? Alors, si on ne répond que rien n'a changé, on sera peut-être fier de répondre rien n'a changé. Et si on répond que nous sommes le même chrétien qu'aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ben je m'inquiéterais quand même un peu. Pour nous, pour vous, pour moi, si je répondais ça. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de toujours tout bouleverser, de toujours tout changer, chambouler, de croire tout et son contraire, de tout balancer. Non, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire qu'une foi vivante, c'est une foi qui évolue, y compris au niveau des convictions. Une foi qui est appelée à s'affermir, à se nourrir, à grandir. Parce que nous n'avons jamais fini de découvrir de nouvelles facettes de Dieu. Nous n'avons jamais fini de découvrir des nouvelles facettes de sa parole, de ses projets pour nous, etc. Alors, dans notre texte, la foi de Pierre s'exprime en tout cas avec une conviction, avec une grande conviction. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, il faut mesurer l'ampleur de la déclaration de Pierre. Il va beaucoup plus loin que tous les autres avis exprimés. La référence à tous les grands prophètes de l'histoire d'Israël pour désigner Jésus, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Mais à côté de ce que dit Pierre, c'est rien. Et il dit que c'est le Fils du Dieu vivant. Ça va beaucoup plus loin que dire oui, c'est un grand prophète. Et d'ailleurs, Jésus le souligne dans sa réponse. Ce n'est pas toi seul, avec ta sagesse et ton intelligence, qui a pu dire cela. C'est Dieu lui-même qui te l'a révélé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu es le Messie. Alors, c'est le sens du mot Christ. Christos, Messia. C'est le même mot, un en grec, l'autre en hébreu. Et donc, le Messie, c'est littéralement celui qui est oint, sur lequel on a mis une onction. Donc c'est celui qui est choisi, c'est un signe de choix par Dieu. C'est celui que Dieu a choisi, celui que les prophètes ont annoncé et qui devait donc venir pour accomplir le projet de Dieu pour l'humanité. Et donc, pour Pierre, Jésus n'est pas seulement un prophète. Quand il dit « tu es le Messie », il n'est pas seulement un prophète, aussi grand soit-il, il est celui que les prophètes ont annoncé. Et puis, il ajoute, tu es le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, pour Pierre, Jésus est Dieu lui-même. Et le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, ça veut dire, venu parmi les hommes. Et c'est sans doute cela en particulier que Pierre n'a pas pu deviner tout seul. Par sa déclaration de foi, donc Pierre témoigne du fait qu'il a compris qui est Jésus. Il l'a vraiment donc rencontré, on peut dire. Et donc ça nous rappelle une deuxième chose, c'est que la foi chrétienne, c'est la rencontre avec le Christ vivant. La déclaration de Pierre nous recentre sur l'essentiel. Avoir la foi, c'est connaître Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas avant tout des dogmes, pas un système de valeurs. Ce n'est pas, hein, comme les gens disent aujourd'hui, hein, mais ce n'est pas un ensemble de rites et de contraintes, comme on le voit aussi hein, dans certaines religions. Non, c'est l'essentiel, c'est la rencontre avec le Christ. Là, voilà la pierre sur laquelle Jésus bâtit et construit son Église. Même si l'apôtre Pierre a joué un rôle spécial dans les premières années de l'histoire de l'Église, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas sur la personne de Pierre que Jésus bâtit son Église, mais c'est sur sa confession de foi, ou sur Pierre en tant que croyant qui confesse sa foi. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ, c'est une communauté de croyants. L'Église de Jésus-Christ, elle est bâtie avec des pierres que sont les croyants, des gens qui croient. Pierre en a été une, d'autres ensuite. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les pierres qui s'ajoutent aux autres pierres. Et nous bâtissons aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ à notre tour. Donc nous avons dans ce récit l'essentiel de l'Évangile, dans la révélation de la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous avons l'essentiel de la foi dans la confession de Pierre, qui reconnaît en Jésus le Messie. Et nous avons l'essentiel de l'Église, que le Christ bâtit avec les pierres des croyants qui confessent à leur tour leur foi. Et nous l'avons dit, notre foi doit sans cesse évoluer, s'approfondir. Nos convictions doivent toujours s'affermir. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que fondamentalement, la foi est la rencontre avec le Christ et qu'elle vit de sa relation avec le Christ vivant. Alors une foi qui ne serait que théorique, basée sur des convictions abstraites, aussi forte soit-elle, ne serait pas vraiment la foi. C'est ce que dira l'apôtre Jacques dans son épître, avec sa formule lapidaire, on peut dire, sa formule choc. La foi sans les œuvres est morte. Il n'y a pas plus clair que ça. Sans, ça veut dire que sans une relation avec le Christ, qui se manifeste notamment dans la prière, sous toutes ses formes, la foi est morte. Et puis la dernière partie de ce texte nous parle de la foi qui est la clé du royaume de Dieu. Alors il faut dire ici quelque chose des dernières paroles de Jésus dans notre texte. Sans doute plus difficile à comprendre que les autres. Quelles sont ces clés du royaume des cieux dont il parle? Pierre a-t-il reçu un pouvoir particulier? Est-il celui qui décide qui entrera ou n'entrera pas dans le paradis, comme on le croit dans la piété populaire? Ça, c'est des idées qui surnagent dans notre esprit. Non. En fait, on ne peut pas séparer cette parole de celle qui suit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Et cette phrase est reprise deux chapitres plus loin, en Matthieu 18, et on la retrouvera dans la bouche de Jésus, mais cette fois clairement adressée à tous les disciples présents. Tous. Je vous le dis, c'est la vérité, ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel, ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Donc cette parole souligne la responsabilité de tous les disciples. Et puis elle souligne la responsabilité, donc et ils ont tous d'une certaine manière le pouvoir d'ouvrir et de fermer la porte du royaume de Dieu. Ou plutôt, les clés du royaume de Dieu sont entre leurs mains. Car le royaume de Dieu se décide sur la terre, ici et maintenant. Alors il faut se défaire d'une vision du royaume de Dieu ou du paradis, comme de la récompense réservée aux bons croyants, ou comme, on va dire, quelque chose qui concerne une espérance qui concerne l'avenir, une espérance, une consolation promise seulement après la mort. Le royaume des cieux commence maintenant, sur terre. Il commence dans la rencontre avec le Christ vivant. Et nous avons les clés entre nos mains. Car ces clés, ce sont celles de l'Évangile. C'est ici et maintenant que se décide l'entrée dans le royaume de Dieu. Quand l'Évangile est partagé, c'est notre responsabilité de disciple. Quand il est reçu par la foi. Alors on voit que les premiers chrétiens l'ont compris ainsi. Pierre en tête, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, le début de l'histoire de l'Église donc. animés par le Saint-Esprit, les disciples ont parcouru tout l'Empire romain pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, en invitant les gens à croire personnellement. Et en faisant cela, ils ont ouvert grand, grand les portes du royaume de Dieu. Alors on peut conclure. Un jour de baptême, c'est un jour où la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est proclamée. Un jour de baptême, c'est un jour où les portes du royaume de Dieu sont grandes ouvertes. Un jour de baptême, c'est un jour où chacun, et pas seulement la baptisée, peut s'interroger sur sa foi, quel que soit son propre cheminement jusqu'ici. Quelle est ma conviction intime et personnelle? Ma foi se nourrit-elle d'une rencontre avec le Christ vivant? Le royaume de Dieu fait-il partie de ma vie, ici et maintenant? Alors, toutes ces questions peuvent d'une certaine manière se résumer à celles que Jésus a posées à chacun de ses disciples et qu'il nous pose aussi à travers l'évangile de ce matin. Et vous, qui dites-vous que je suis ?